Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de découvrir ou de redécouvrir une série d'émissions sur le philosophe Confucius. Aujourd'hui, premier temps, qui était Confucius ? Bonjour Anne Cheng.
Bonjour Adèle Wainwright.
Bonne année à vous.
Bonne année à vous aussi. Vraiment, je suis très heureuse d'être ici pour inaugurer l'année et parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps.
Quelque chose ou quelqu'un même.
À quelqu'un, oui.
Puisqu'il s'agit de Confucius. Mm-hmm, oui, et alors, on change le nom de l'émission aujourd'hui. Mm-hmm. Confucius tenait énormément au rite. Est-ce que changer de nom, c'est une manière de qu'est-ce qu'il aurait pensé du fait de rebaptiser comme ça, au milieu de sa vie, une émission ?
Ce qui serait anti-confucéen, ce serait plutôt une inadéquation entre le nom et la chose. En revanche, changer le nom pour que ce soit plus en adéquation avec la chose, ça c'est plutôt dans l'esprit confucéen.
Même si le terme même de philosophie, est-ce qu'il avait un sens à cette époque ? Lui-même ne parle pas de philosophie.
Oui, alors là c'est tout un problème, mais je pense que chez Confucius, il y a justement l'idée que la connaissance, ça n'est pas simplement quelque chose de cérébral, d'intellectuel, mais quelque chose qui concerne la personne entière. Par conséquent, je considère que c'est un exercice philosophique en soi. Hein.
Alors, bienvenue sur les chemins de la philosophie avec la bénédiction d'Anne Cheng et de Confucius.
Méditez ces paroles de mon maître Zishan. En gardant votre force d'esprit, vous réussirez à parcourir la longue route. On passe peut-être notre temps à travailler, mais nous préparons l'avenir de ce pays.
Nouvelle année, nouveau nom. Donc, les chemins de la philosophie vous accompagnent tous les jours de 10h à 10h53 en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, on vous invite à déambuler autour d'un thème à la croisée des disciplines, philosophie, bien sûr, mais aussi littérature, cinéma, musique. Et chaque jour, nous donnons la parole aux amoureux du savoir, aux gourmands de la pensée, aux férus de transmission, la crème de la crème, à votre service, au creux de votre oreille. Anne Cheng, vous êtes sinologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Vous êtes l'auteur également d'une histoire de la pensée chinoise qu'on trouve en folio essai, une édition des entretiens de Confucius. Et ces entretiens d'ailleurs sont, un recueil de très courts aphorismes, hein, ou comme des mini-dialogues qui mettent en scène Confucius, qui ne sont pas du tout théoriques, qui sont assez descriptifs et qui sont assez déroutants à la première lecture, puisqu'on se demande quelle est la teneur de ces entretiens. Est-ce que c'est, il y a pas vraiment de théorie philosophique, il y a certains conseils, mais on se demande s'ils ont une valeur universelle ou ils sont simplement empiriques. Peut-être un mot sur ces entretiens. Est-ce que Confucius en est vraiment l'auteur? Est-ce que dans quelle mesure ont-ils été récupérés, réécrits par ses héritiers?
Oui, alors donc l'histoire textuelle des entretiens est une histoire extrêmement compliquée. Si on veut établir un parallèle, on pourrait dire que la complexité de cette histoire textuelle est à peu près égale à celle des évangiles, par exemple. Et donc là, nous avons en fait des bribes d'échanges entre un maître, qui est cité toujours au discours direct. La plupart des fragments des entretiens commencent par la formule canonique « le maître dit » et ensuite on a au discours direct ce qu'il est censé avoir dit. Hein. Donc ça c'est déjà une forme assez assez originale. Mais en réalité, en fait, ce maître, on a toujours supposé que c'était Confucius, mais maintenant en fait il y a une école critique qui est de plus en plus présente dans les cercles sinologiques, enfin qui remet tout en question et dit que finalement ce maître, ça n'est peut-être pas uniquement Confucius, ça peut être d'autres maîtres, étant donné que dans l'Antiquité pré-impériale chinoise, c'est-à-dire toute la période qui a précédé l'établissement du premier empire centralisé au IIIe siècle, avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire en 221 avant Jésus-Christ. Donc toute cette période avant a été, animée par des débats extrêmement virulents entre différents maîtres qu'on appelait tous justement zi en chinois, donc maître. Et donc Confucius a émergé donc de cette mêlée, si j'ose dire, à l'ère impériale, sans doute pour des raisons qu'il va falloir expliciter. Hein,
vous l'avez dit, le nom de Confucius, c'est la version latine du chinois. Alors je vous laisse le prononcer en chinois.
Fuzi.
Donc zi, c'est le maître.
Zi, oui.
Le maître Kong. Alors,
oui, c'est ça, exactement. Fuzi, c'est une façon aussi de dire le maître. Et c'est une latinisation qui a été effectuée par les missionnaires jésuites en particulier.
Donc très tardive.
Très tardive, c'est-à-dire, oui, enfin, les jésuites qui étaient présents en Chine à partir du 16e, 17e siècle, ont commencé justement à traduire des pans entiers du corpus dit confucéen dans la première langue européenne de l'époque, c'est-à-dire le latin. Et donc, le nom de Confucius, justement, a été latinisé à cette occasion. Et c'est un des rares noms de maître à penser chinois qui a été latinisé. Enfin, un autre est Mencius, Mengzi, donc latinisé en Mencius. Vous avez aussi Mozi, donc maître Mo en Mosius, mais je crois que c'est à peu près les seuls, en fait.
Confucius vit au 6e siècle avant le début de notre ère, ce qui est l'équivalent
siècle, oui.
En Occident à l'époque de ce qu'on appelle, nous, les pré-socratiques.
Oui.
Est-ce que ça veut dire... Et Confucius est considéré comme le premier penseur, je veux dire, nous on fait Socrate serait l'inventeur de la philosophie, Socrate et Platon. Mm-hmm. Et on appelle Héraclite, Anaxagore, tous ceux qui ont pensé avant eux, les pré-socratiques. Est-ce que Confucius représente cet équivalent du côté chinois?
Oui, ce serait commode de penser ça et de dire ça. En réalité, je pense qu'il faut peut-être rappeler la théorie de Karl Jaspers sur l'âge axial, puisqu'en fait, le 6e, 5e siècle, c'est vraiment le moment dans l'histoire de l'humanité qui connaît l'émergence de discours soit de sagesse, soit de spiritualité, soit de philosophie, pourquoi pas, avec Confucius en Chine, mais il ne faut pas oublier le Bouddha en Inde, qui est à peu près contemporain aussi. Vous l'avez dit, les pré-socratiques en Grèce. On a aussi, enfin, tout la culture hébraïque, etc. Donc là, en fait, on a vraiment quelque chose qui se passe peut-être dans le monde, une espèce de concomitance de tous ces discours qui émergent. Maintenant, dire que Confucius est le fondateur de la philosophie chinoise, c'est un petit peu de la rétroprojection, dans la mesure où il y a eu effectivement, enfin, des débats à n'en plus finir sur la question de savoir si on peut parler de philosophie quand on parle de la tradition intellectuelle chinoise, c'est-à-dire est-ce qu'on peut véritablement plaquer une catégorie, enfin, qui s'est constituée quand même dans le 19e siècle européen, enfin, vous l'avez dit d'entrée de jeu, la philosophie, c'est si on a une conception ouverte et pluraliste de cet exercice, à ce moment-là, ça peut inclure aussi d'autres formes de la pensée, de l'expression humaine que simplement donc le discours philosophique professionnel en fait, et institutionnel. Donc, si on prend cette définition large de la philosophie, à ce moment-là, je vois pas en quoi, effectivement, la tradition intellectuelle chinoise ne serait pas de la philosophie. Elle inclut toute une réflexion justement sur ce que c'est que être humain, ce que c'est qu'être humain dans le monde, notamment, enfin, non seulement dans la communauté humaine, mais aussi dans le monde naturel, dans le cosmos, etc. Donc, est-ce que si c'est pas de la philosophie, qu'est-ce que c'est enfin...
Alors, on a difficile de comprendre le texte de Confucius, le texte des entretiens, sans le contextualiser, le situer dans un certain, dans une la période historique dans laquelle il se trouve. On l'a dit à peu près 6e siècle avant le début de notre ère. Cette période se caractérise en Chine par un contexte politique changeant. C'est la fin d'une certaine ère et le début d'une autre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Anne Cheng?
Oui, on pourrait dire que oui, enfin toutes les époques sont des périodes de changement, des périodes d'agitation. Enfin, nous en connaissons une actuellement.
Il y a certains âges d'or parfois où on se dit que là il y a une espèce de stabilité.
Mais alors l'âge d'or, oui, enfin c'est toujours en fait une quand on regarde dans le rétroviseur, mais quand on vit dedans, en fait, je suis pas très sûre que les hommes de la Renaissance avaient conscience de vivre un âge d'or, je sais pas, enfin c'est toujours un petit peu de là aussi de la rétroprojection.
Le présent
enfin.
Était toujours vécu comme une transition, voire
oui,
une crise.
C'était
hein,
toujours,
la fin
c'était
notre
toujours
époque.
Mieux ouais, avant, oui. C'est enfin ça. Bon, c'est et d'une certaine façon, Confucius n'échappe pas à la règle. C'est quelqu'un qui aussi regarde beaucoup dans le rétroviseur en parlant d'un âge d'or. Alors pour lui, l'âge d'or, c'était précisément la période de la fondation de la grande dynastie des Zhou sous laquelle il a vécu, cette dynastie qui prend le pouvoir donc aux alentours de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, pour faire simple, et qui conquiert le pouvoir en se fondant sur une sorte d'auto-légitimation selon laquelle donc une dynastie ne peut véritablement se prévaloir de régner et de faire durer son règne que si elle mérite donc ce que les Zhou appelaient le mandat du ciel, hein, c'est-à-dire donc une sorte de décret céleste qui légitimerait justement ce pouvoir dynastique. Et donc qui instaure en fait une sorte de sanction morale céleste, c'est-à-dire supérieure, venant d'une instance supérieure, et qui serait garante justement, enfin, d'une bonne marche des choses, etc. Donc sous les Zhou se développe justement toute cette théorie du mandat céleste selon laquelle donc un souverain n'est pas là pour se servir lui-même, mais pour servir justement toute la communauté. Donc Confucius s'empare justement de cette, on pourrait dire, de ce premier discours de propagande qui date des débuts du premier millénaire avant l'ère chrétienne, mais à une époque où justement le pouvoir de cette royauté Zhou est en train de se déliter complètement. Dans les entretiens, on a très très fréquemment en fait des allusions justement à ce délitement du pouvoir à tous les niveaux, c'est-à-dire que vous avez en fait des, on pourrait dire, des vassalités, pour faire référence au système féodal européen, mais tout en se disant qu'il faut vraiment prendre conscience du mutatis mutandis, n'est-ce pas? Enfin, mais enfin, ces principautés qui, en principe, étaient affiliées à cette royauté Zhou, qui ensuite prennent de plus en plus d'ampleur et ont des prétentions hégémoniques pour essayer de se tailler la part du lion et donc régner sur les autres principautés. Donc vous avez déjà à l'époque de Confucius, c'est-à-dire donc 6e, 5e siècle, déjà un début de délitement de cet ordre royal le début justement de ce qu'on appellera plus tard la période des royaumes combattants, c'est-à-dire précisément de toutes ces vassalités, ces principautés qui se battent entre elles, instaurent une sorte de guerre permanente entre elles qui dure pratiquement du la fin du 5e jusqu'au début du 3e siècle, où là une de ces vassalités, la vassalité de Qin, centralise, enfin unifie tout l'espace chinois de l'époque et instaure donc le premier empire centralisé. Donc là, nous avons en fait cette étendue historique qui est perçue donc par Confucius, censément, donc, et qui se traduit dans pas mal de passages des entretiens où il est souvent fait allusion justement à ces processus d'usurpation à tous les niveaux.
Eh ben, avant, on a écouté un extrait, le dialogue ou le petit passage 16 dans les entretiens de Confucius, donc, que vous citez dans votre histoire de la pensée chinoise, Han Cheng. C'est le comédien Jean-Louis Jacopin qui interprète le texte. Écoutez.
Confucius dit : la voix règne sous le ciel lorsque les cérémonies rituelles, la musique et les expéditions punitives sont dirigées par le Fils du ciel en personne. La voix ne règne plus si elles sont prises en main par les vassaux, lesquels restent rarement au pouvoir plus de 10 générations. Si elles se trouvent dévolues aux grands ministres, ceux-ci ne restent guère plus de 5 générations au pouvoir. Enfin, si la charge de l'État est usurpée par les intendants des grandes maisons, leur pouvoir ne saurait se maintenir plus de 3 générations. Lorsque la voix règne sous le ciel, ce n'est pas aux ministres de décider de la politique et les simples sujets n'ont pas lieu de la discuter.
Alors, explication de texte, Han Cheng, pour bien comprendre ce qu'on vient d'entendre, précisons que la voix qui règne sous le ciel lorsque les cérémonies rituelles, c'est la voix évidemment VOIE, même si nous sommes à la radio. Et la voix, c'est la traduction de ce qu'on appelle le Dao ?
Oui, tout à fait, oui.
Et
qu'est-ce que
qu'est-ce que c'est cette voix ?
Bien, Tao, c'est un terme, bien sûr, qu'on connaît à travers ce isme qu'on a inventé à partir du Tao, le Taoïsme, et dont on a fait beaucoup de gorges chaudes, évidemment, enfin, en faisant quelque chose de très très brumeux, enfin très très planant, etc. Là, il faut quand même nous souvenir que l'engouement pour le taoïsme et le bouddhisme, ces philosophies orientales, enfin, c'est quelque chose qui a sévi, si j'ose dire, dans nos années 1960, 70, enfin, avec les babacools, etc. Enfin, je veux dire, bon, ça nous renvoie justement à cette génération. Maintenant, Tao, c'est un mot très banal qui veut dire tout simplement le chemin. Et le fait de marcher, le fait de cheminer, et donc dans le vocabulaire de ces maîtres à penser de la Chine pré-impériale, donc de ces siècles, disons entre 5e, 4e, 3e siècle avant l'ère chrétienne, ce mot Tao était un mot extrêmement banal, et chaque maître à penser proposait justement son Tao, c'est-à-dire son chemin, sa voie, sa manière de concevoir les choses, sa manière préconiser certaines choses à faire, etc. Ça pouvait être aussi enfin des choses très très concrètes, enfin du genre de recettes de gouvernement, de recettes de longévité, de recettes de bonne vie, etc. Donc tant c'est tout ça. Donc
une forme de sagesse, on dirait sagesse, savoir-faire.
Sagesse
pratique.
Disons que chaque maître à penser proposait son Tao, et Confucius en était un aussi. Il a essayé de proposer son Tao, et quand il parle la voie qui règne sous le ciel, c'est-à-dire dans le monde entier, c'est-à-dire vraiment dans le monde sous le ciel. Là, je rappelle au passage que la Chine s'est longtemps désignée comme tout ce qui est sous le ciel, tout simplement, le monde. Pas simplement le centre du monde, mais le monde. Donc, cette voie qui règne sous le ciel, là aussi, en fait, Confucius fait référence à la voie, justement, des premiers souverains de cette dynastie Zhou, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1000 avant la chrétienne, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ces rois fondateurs, le roi Wu, le roi Wen, c'est-à-dire littéralement le roi martial, c'est-à-dire donc le roi guerrier, et le roi Wen, c'est-à-dire le roi de la culture. Vous avez ce binôme tout à fait paradigmatique dans la pensée chinoise, c'est-à-dire donc cette alliance de la puissance guerrière et de la civilisation disons écrite. Donc ces deux rois fondateurs en fait étaient pour Confucius vraiment des fondateurs justement de cette voie qui devrait régner sous le ciel. Et quand cette voie est perdue, à ce moment-là, ce sont justement en fait les subalternes qui prennent le pouvoir.
C'est ce qui est dans le texte, la voie ne règne plus si elles sont prises en main par les vassaux, lesquels restent rarement au pouvoir plus de 10 générations. Qu'est-ce qu'il faut y entendre ici, une l'expression par Confucius de son désaccord quant à un changement d'ordre, une abolition de la hiérarchie entre les seigneurs et les vassaux?
Disons que pour lui, effectivement, le fait que le pouvoir soit dévolu aux vassaux, c'est justement le signe d'une fragmentation, d'un éclatement justement du pouvoir royal, et pour lui donc le signe justement de ce qui est le plus oni enfin dans la pensée politique chinoise, c'est-à-dire le désordre. Là je digresse un peu, mais
je vous en prie.
Une parole libre, mais justement quand je parle de désordre, il y a ce mot chinois luan en fait qui a été utilisé par Kurosawa dans un de ses très grands films épiques, qui évoque justement la figure du roi Lear. Et donc ce film s'appelle donc utilise ce mot chinois donc luan, le désordre. Et là dans le film de Kurosawa, on a une je ne digresse pas, parce qu'en fait on a vraiment quelque chose qui rend comment dire visible et tangible justement cette sensation de chaos, à la fois humain, politique et cosmique, que Confucius envisage justement si le pouvoir est dévolu aux vassaux. C'est-à-dire là, on a la préfiguration de ce qui va suivre historiquement, c'est-à-dire donc cette période des royaumes combattants, de ces vassalités en guerre permanente.
Donc l'important, les uns contre les autres, c'est l'ordre. Oui. Il faut sacrifier l'égalité au nom de l'ordre.
L'ordre, non pas au sens américain du law and order, ou alors le ordre, famille, patrie, etc. Mais l'ordre dans le sens de quelque chose qui rendrait la vie possible. Je pense que si on peut reconstituer quelque chose à partir de ce qu'on voit dans les entretiens, il y a cette préoccupation fondamentale justement pour comment faire pour transmettre la vie possible d'une génération à l'autre dans l'histoire de l'humanité. Il y a vraiment, je pense, chez Confucius, parce qu'il faut quand même s'interroger sur le cas de cet homme qui lui-même se considérait comme un raté. Qui est passé de déception en déception et qui pourtant enfin a réussi à porter une parole qui a eu des échos enfin dans toute l'histoire de la civilisation chinoise enfin et d'une certaine manière on a le sentiment que c'est pas fini enfin donc
et pourquoi dites-vous qu'il se considérait comme un raté
Il le dit lui-même. En tout cas, enfin, si on en croit les entretiens et si on en croit la première biographie, enfin, qui a été composée à son sujet, mais qui date de plusieurs siècles après son vivant, c'est une biographie plus ou moins hagiographique, enfin, plus ou moins légendaire, qui est due au premier historien chinois Sima Qian, donc une biographie donc qui date de plusieurs siècles après Confucius, qui a été composée aux alentours autour du deuxième premier siècle avant l'ère chrétienne, donc imaginez quelqu'un qui fait la biographie de quelqu'un qui a vécu à la Renaissance par exemple, hein. Donc là c'est à peu près de cet ordre-là, hein. Dans cette biographie on reproduit justement ce qu'il y a dans les entretiens, ou à moins que ce soit l'inverse, on fait dire à Confucius justement qui se lamente d'avoir justement de n'avoir pas pu accomplir sa mission céleste. Confucius apparemment se sentait investi d'une mission du ciel, non pas que c'était un illuminé ou quoi que ce soit, mais il faisait référence à ce ciel justement des Zhou. Qui avait délivré le mandat céleste à cette dynastie et lui-même se sentait investi d'une mission justement pour restaurer ce mandat céleste. Et donc il a le sentiment, il le dit, qu'il a failli à cette mission, ou en tout cas qu'on ne lui a pas donné l'opportunité justement de l'accomplir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se rabat sur le rôle d'enseignant, hein. C'est-à-dire que il tente sa chance auprès du souverain de son propre pays, le pays de Lou, son pays natal, qui se situe dans la province actuelle du Shandong, c'est-à-dire cette espèce d'avancée terrestre dans la mer de Chine, à l'est du pays. Il quitte le pays de Lou, enfin selon cette légende biographique, donc il quitte le pays de Lou pratiquement en claquant la porte, parce que la légende veut que son souverain préférait justement entretenir des musiciennes et des danseuses plutôt que de s'occuper du gouvernement de son pays. Donc Confucius se jette sur les routes quand même à un âge assez tardif, à 50 ans passés, à la recherche d'un souverain qui voudrait bien justement l'écouter et pratiquer sa version de la voix.
Et il cherche à s'associer, à conseiller un souverain. On appellerait ça aujourd'hui comme une forme de conseiller du prince. Hein.
Oui, tout à fait.
La manière de Machiavel notamment, même mm-hmm. si le contenu de la pensée est bien différent, il y a cette volonté d'appliquer de manière pratique et donc politique la forme de sagesse ou de savoir-faire qu'il accumule par ailleurs.
Oui, parce que Confucius, manifestement, enfin, quand on voit un petit peu le profil de ses disciples, des gens qui viennent le voir, le trouver pour obtenir ses avis, ses conseils, son enseignement, viennent le voir pour ses compétences en gouvernance. Parce que ce sont la plupart sont des disciples justement qui ont des dents très longues, qui sont très ambitieux, etc., et qui veulent justement réussir dans leur carrière politique en quelque sorte. Et donc Confucius est considéré un petit peu comme une espèce de maître S politique. Et lui-même, justement, enfin, tente de jouer ce rôle de conseiller du prince, rôle qui va rester celui de ceux qu'on appelle enfin les lettrés confucéens et qui se mettent plus tard au service de l'État impérial. Enfin, ça, c'est une histoire ultérieure. Mais toujours est-il que c'est, au fond, Confucius, c'est un des archétypes, au fond, de ces conseillers du prince itinérant. Parce que là, on commence à voir, justement, cette catégorie sociale, on pourrait dire, émerger aux alentours du 5e, 4e siècle. Mencius en sera un aussi, Schunz aussi, dont il sera sans doute question plus tard. Donc tous ces gens-là étaient en fait des gens qui se promenaient d'une principauté à l'autre pour proposer leurs services et on pourrait dire leur savoir-faire, est-ce gouvernance. Oui.
Et les expériences qu'ils multiplient auprès des princes, pourrions-nous dire, ne conduisent pas, selon lui, à un succès. Vous l'avez dit, il se vit comme un homme qui a accumulé beaucoup d'échecs. C'est pourquoi il décide de se résigner, de se consacrer à l'éducation. Écoutez comment cette transition-là de la politique à l'éducation est mise en scène dans un film que Hu Mei a consacré à Confucius. C'était en 2010 avec Chow Yun-fat dans le rôle principal.
夫子，弟子又见到你了。冉求，哎，你也回来了。夫子，
le premier ministre est souffrant depuis longtemps. Il n'est plus en mesure d'assurer pleinement sa fonction. Il ne lui reste que peu de temps à vivre. Quand il se rappelle à vous, il est plein de remords pour ce qu'il vous a fait. C'est la raison pour laquelle son fils vous implore de rentrer à Lu.
Un anneau de jade. Une invitation à rentrer. Soit. Je vais rentrer au pays. Mais seulement pour y enseigner. Je refuserai tout ministère, quel qu'il soit. Jamais plus je ne voudrais avoir affaire avec la politique.
Bien, maître. Je transmets vos conditions.
J'irai en référer à mon père, maître.
Peux-tu aller livrer ces annales des printemps et des automnes?
Oui, maître.
Si je suis encore connu de nos jours, c'est surtout grâce à ce livre. Et si certains pensent du mal de moi, c'est aussi à cause de ce livre.
Vous écoutez Confucius sur France Culture, les chemins de la philosophie, anciens, nouveaux chemins de la connaissance qui deviennent à partir d'aujourd'hui les chemins de la philosophie. De chemin, il est question aujourd'hui chez Confucius, le Tao, que l'on peut traduire par chemin, hein, essayer de parcourir ces chemins qui nous conduisent on ne sait où, mais aujourd'hui dans les entretiens de Confucius, grâce à Han Cheng, la sinologue Han Cheng, qui vient nous en parler aujourd'hui. Le fait de renoncer à la vie politique pour se consacrer à l'enseignement, on pourrait l'entendre comme une forme de résignation, Han Cheng. Or, il n'en est rien, car les entretiens de Confucius donnent à lire de nombreuses réflexions quant aux vertus de l'éducation comme étant finalement ce qui nous conduit vers la voie suprême que serait la vertu. Mmh. C'est pas du tout une résignation, c'est un choix.
Oui, effectivement, là, le passage que nous venons d'entendre de cette superproduction chinoise.
Oui, superproduction, vous le dites de manière ironique ou pas?
Non, c'est objectivement ce que c'est. Enfin, une superproduction. Là, il se trouve que dans le passage que nous venons d'entendre, il y a une allusion qui est tout à fait apocryphe à ce texte des printemps et automnes, des annales des printemps et automnes, que en fait on ne peut pas véritablement attribuer à Confucius. Il se trouve que ce sont des annales de son pays natal, certes, qui couvrent une période qu'il a connue, mais enfin, disons que l'attribution à Confucius est tout à fait abusive, et la citation qui est donnée est tout à fait apocryphe aussi. Enfin bon.
Et le reste du film, vous l'avez vu? Est-ce qu'il est à peu près fidèle quand même à Confucius?
Le reste du film, alors le film en fait a eu un succès relativement mitigé en Chine, parce que si je me souviens bien, en fait il a été mis en salle en même temps que le gros succès américain qui s'appelait Twilight, je crois. Enfin, et du coup en fait le public chinois a complètement boudé Confucius. Donc là, c'était un petit peu peine perdue parce qu'en fait, c'est Confucius est maintenant, ça on aura l'occasion d'y revenir sans doute aussi, mais Confucius est maintenant monté en épingle comme une espèce d'icône, d'emblème national pour cette Chine en pleine montée en puissance.
Encore aujourd'hui, c'est ça qui est fou quand même.
Oui, oui, oui. Non, mais enfin bon, ce qui est encore plus fou, c'est que Confucius, après avoir été déboulonné, enfin sous toutes les formes possibles et imaginables, pendant un siècle au moins, depuis le début du XXe siècle, avec une sorte de paroxysme pendant la Révolution culturelle des années 60-70.
Oui, où 60, on criait anti-Confucius, oui, à bas Confucius.
Oui, à bas Confucius, etc. Où on a détruit, enfin vraiment tout ce qui pouvait rester d'héritage confucéen, etc. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que les gens qui, les gardes rouges, qui avaient 20-30 ans à l'époque, maintenant sont sexagénaires, et donc sont au pouvoir maintenant, et ce sont eux qui, les mêmes, donc qui érigent des statues de Confucius dans tout le pays. Enfin, donc, et voilà. Et donc, ce film avec Chow Yun-fat, une grande star hongkongaise dans le rôle titre, c'est manifestement une sorte de film de propagande à la gloire de la grande culture chinoise. Enfin, donc ça c'est.
Vous l'expliquez comment ce retour à Confucius?
C'est très complexe et je pense que on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais
allons-y.
Oui. Donc je crois que il y a quelque chose de tout à fait conjoncturel dans ce et de comment dire d'opportuniste enfin dans ce retour de Confucius, en tout cas dans sa dimension d'instrumentalisation idéologique par le pouvoir en place, par l'équipe dirigeante. Ça fait déjà en fait plusieurs équipes dirigeantes du Parti communiste chinois, enfin du gouvernement chinois de Chine continentale, qui commence à instrumentaliser un petit peu ces thématiques confucéennes. L'équipe précédente se targuait justement de pratiquer une gouvernance confucéenne, c'est-à-dire pleine d'humanité, etc., avec Hu Jintao, Wen Jiabao, etc. Et maintenant, on a en fait une nouvelle instrumentalisation de ce discours confucéen qu'on réduit justement à une forme de néo-autoritarisme et qui vient en fait à l'appui de la politique de plus en plus justement verrouillée, maniaque du contrôle.
Donc Confucius devient l'alibi du maintien de l'ordre, d'un ordre hiérarchique et autoritaire.
Oui, c'est ça. Oui. Donc là, on a manifestement en fait une instrumentalisation extrêmement sélective justement de l'héritage confucéen, donc qui est censé donc servir la politique actuelle, qui recherche justement la stabilité sociale à tout prix et par conséquent enfin verrouille tout ce qui peut ressembler à des débuts de contestation, etc. Donc et tout ça au nom justement de l'ordre confucéen. C'est pour ça que j'ai bien insisté tout à l'heure sur le fait que quand Confucius parle d'ordre, et là, il faudrait que j'explicite un petit peu ce mot. Il ne s'agit pas justement de ce qui est entendu maintenant, enfin, de contrôle politique justement du corps social. C'est pas ça. Le mot chinois ancien qui est utilisé qui est traduit par ordre, c'est en fait un terme quasi médical qui désigne en fait l'état comment dire d'équilibre et de fonctionnement harmonieux d'un organisme vivant. Donc là en fait on a une conception du corps sociopolitique qui est une conception organique en fait, et une conception organique aussi de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que il y a toujours cette, quand on parle de hiérarchie confucéenne, en réalité c'est l'idée que si on veut que l'organisme vivant, que le corps sociopolitique, au sens propre du terme corps, fonctionne harmonieusement, il faut qu'il y ait une tête, et qu'il y ait une seule tête, parce que si vous avez deux têtes à ce moment-là, donc les choses commencent à partir dans tous les sens, donc une seule tête, et le reste du corps suit les membres, tout ça, chacun ayant son propre rôle, s'il sait se tenir à sa place. Mmh. Hein, c'est-à-dire si les bras commencent à faire ce que font les jambes, etc. Enfin, là, on est aussi dans une forme de désordre organique.
Donc l'ordre, c'est chaque chose à sa place.
Chaque chose chacun. Fonctionnant dans ce qui lui
c'est
est...
une forme d'unité organique.
De ce qui lui est attribué comme fonction, oui. C'est-à-dire si l'estomac commence à remplacer les reins, etc. Là, vous commencez à avoir du désordre.
Ce qui peut en effet être brandi au service d'une volonté de maintien de l'ordre beaucoup plus oppressive que ce que Confucius entendait, puisque chaque chose a sa place, c'est aussi une manière de dire surtout ne bougez pas, ne vous révoltez pas et obéissez-moi.
Oui, bien sûr. Là,
ce qui est paradoxal chez Confucius, qui met quand même l'humain, l'être humain, au centre de sa pensée également. On a parlé d'humanisme, c'est peut-être un contresens, mais c'est pour dire qu'il y a une dimension morale, du perfectionnisme moral de l'homme qui est très importante chez Confucius et qui paraît contradictoire avec une pensée de l'ordre, du respect de l'ordre établi.
Oui, plutôt que perfectionnisme, perfectibilité, on pourrait dire. Hein. Et ça, c'est justement, ça a quelque chose à voir avec le thème que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la primauté de l'étude, hein, ce qu'il appelle l'étude. Xue en chinois, donc qui est le tout premier mot des entretiens, il se trouve être le tout premier mot et qui est véritablement le mot clé par excellence de tout l'enseignement confucéen et de tout l'héritage qu'il
voilà,
laisse.
Voilà, on en revient à l'importance de l'éducation. La première phrase d'entretien, c'est celle-ci puisque vous la citez, apprendre quelque chose pour pouvoir le vivre à tout moment, n'est-ce pas la source de grand plaisir? Recevoir un ami qui vient de loin, n'est-ce pas la plus grande joie? Être méconnu des hommes sans en prendre ombrage, n'est-ce pas le fait de l'homme de bien? C'est-à-dire que dans la première phrase, Anne Cheng, on trouve à la fois la notion d'apprendre, l'importance de l'étude, et celle de plaisir surtout.
Oui. Ça, c'est précisément ce qui va opposer justement les Confucéens et les Moïstes, qui reprochent les Moïstes, si je peux me permettre, qui sont un petit peu des dissidents, enfin qui suivent un petit peu l'héritage confucéen, mais tout en prenant leur distance par rapport à lui, et qui deviennent un petit peu des espèces de puristes, ou si je peux oser le parallèle, enfin qui se deviennent un petit peu des talibans, enfin de cet héritage confucéen, et donc qui eux en fait suppriment totalement cette dimension de joie qui vient tout simplement du fait de se perfectionner soi-même, de recevoir un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui vient de loin, et justement de se contenter de ça, même si
de renoncer à la notoriété,
s'il n'y a pas de reconnaissance sociale, en fait, c'est ça. Hein, donc ça, c'est vraiment la toute première phrase, et ça, c'est vraiment ce qui va rester au cœur de l'héritage confucéen. Hein.
Plus tard, on lit ceci, plus tard dans les entretiens, quand on tourne les pages. À 15 ans, je résolus d'apprendre. À 30 ans, j'étais debout dans la voie. À 40 ans, je n'éprouvais plus aucun doute. À 50 ans, je connaissais le décret du ciel. À 60 ans, j'avais une oreille parfaitement accordée. À 70 ans, j'agissais selon les désirs de mon cœur sans pour autant transgresser aucune règle. On entend ici la sagesse pratique que Confucius met en œuvre. On voit aussi le temps, la durée à parcourir pour parvenir à cette sagesse ultime. C'est comme Platon, pour qui le philosophe roi doit avoir aussi, je crois, entre 70 et 80 ans pour pouvoir être digne de cette appellation.
Oui, alors là, vous venez de lire en traduction je pense que je considère comme mon passage préféré des entretiens, parce que d'une certaine manière, Confucius là est censé parler donc au soir de sa vie, puisque si on fait le compte de ces dates conventionnelles, donc il serait né en 551, mort en 479, donc
avant le début de notre ère.
Avant le début de notre ère, donc si on fait le compte, il serait mort à quelque chose comme 70 ans passés. Et donc là, on l'imagine justement en train d'évoquer donc par un petit peu par décade, par décennie, le bilan de sa vie, mais qui ne ressemble en rien en fait à un curriculum vitae. En fait, il aurait pu dire j'ai été ministre de mon pays, ensuite j'ai formé telle et telle célébrité, etc. Pas du tout. En fait, chez lui, il y a cette idée d'évoquer justement le parcours de quelqu'un qui a voulu se construire comme un être humain à part entière. D'ailleurs, si vous me permettez, je pourrais le dire en fait de mémoire en chinois, parce que c'est vraiment un passage magnifique. Hein. Donc le passage commence toujours par cette formule canonique, Zi Yue, le maître dit, hein, et il commence ensuite à dire Wu Shi Yo Wu Zhi Yu Xue. Donc, la première phrase de ce discours direct, c'est, il commence par dire moi, à 15 ans, hein, j'ai mis toute ma détermination, toute ma résolution dans l'étude, l'apprendre. Ça veut dire que ça, c'est vraiment fondamental. Hein, c'est-à-dire que on ne peut pas se construire en tant qu'être humain sans justement prendre cette détermination première. C'est-à-dire l'idée que on n'est pas humain c'est pas un donné, mais c'est quelque chose qui se construit. Hein, donc il faut d'abord une résolution de vie. Ensuite, sincerely, hein, donc à 30 ans. J'étais debout, littéralement. Donc là, on peut le comprendre comme on veut, mais enfin, sincerely, c'est debout, c'est-à-dire debout dans la vie, peut-être adulte, etc. Sishi er bu huo, à 40 ans, je n'étais plus dans la confusion. Je pense que actuellement, on voit autour de nous, dans les jeunes générations, justement beaucoup de, on pourrait dire de confusion, c'est-à-dire d'anxiété, d'incertitude. Hein. Et là, Confucius nous dit à 40 ans, j'étais sorti de cette période de confusion dans l'esprit. Ou Shi, Zhi Tian Ming, donc à 50 ans. Littéralement, je connaissais donc le décret du ciel. Et là, je pense qu'il fait référence à ce sens de la mission dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'il se
le mandat senti, céleste.
Ouais. C'est ça. Il s'est senti investi d'une mission venant d'une instance supérieure, c'est-à-dire celle de rétablir justement la voie des anciens rois, en fait, hein, cette voie royale des premiers souverains des Zhou. Ensuite, là viennent des choses assez surprenantes. Donc, Liu Shi Er Shun, hein, c'est-à-dire donc à 60 ans, j'avais l'oreille parfaitement accordée. Hein. Nous sommes à la radio et donc là, ouais, vraiment en fait, ce privilège accordé à l'oreille.
Il y a beaucoup de questions dans les entretiens, l'importance de la musique, oui, du son, des sonorités.
Ouais. Exactement, oui, oui, et donc l'oreille, en fait, c'est un le graphème de l'oreille. On le voit figurer justement dans le mot qui désigne la sagesse. Donc en fait, la sagesse, c'est beaucoup en fait avoir l'oreille juste, hein, l'oreille parfaitement accordée. Et qi shi cong xin so yu bu yu ju, c'est-à-dire maintenant que j'ai 70 ans, je peux suivre exactement les désirs de mon cœur sans pour autant outrepasser aucune règle. C'est-à-dire que là, il y a une forme très particulière de la liberté. On pourrait dire de la liberté, j'ai évoqué le parallèle avec ce que dit Matisse, exactement la même chose. Matisse, à 70 ans, donc dit, là, j'ai atteint la liberté totale du trait, hein, qui est en fait le trait sans bavure, qui n'hésite plus, qui est totalement nécessaire. Exactement comme, justement, le trait du trait de pinceau du calligraphe.
Yeah.
Confucius Say, c'est le titre de cette chanson par Roman Tam. Un grand merci Anne Cheng d'être venue nous parler de Confucius aujourd'hui.
Merci Adèle Van Redsel, c'était un plaisir de dialoguer avec vous.
Un grand plaisir partagé, on a compris que pour sortir de la confusion, il fallait lire Confucius et que la sagesse était dans l'oreille. On trouve ça dans les entretiens de Confucius, vous en proposez une édition au Point, justement, Anne Cheng, et on peut lire également de vous une passionnante, vraiment passionnante histoire de la pensée chinoise, toujours aux éditions en Point Essai. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité. Alors, quelle actualité de philosophie a retenu votre attention ?
Oui, alors effectivement, pas l'actualité d'Emmanuel Macron ou du hashtag Balance ton porc qui ont quand même rythmé ce week-end. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est un très beau recueil d'essais de Virginia Woolf qui a retenu mon attention. Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds, c'est son titre. Soit une manière de dire que les livres n'ont besoin que d'eux-mêmes et pas de philosophes pour être compris, repris, aimés ou détestés, tout simplement lus. Et voilà la question essentielle posée par Virginia Woolf ici, dans ses textes écrits entre 1917 et 1940. Qu'est-ce que lire, plutôt que qu'est-ce que dire ou écrire ? Et voilà la manière essentielle de la poser, non pas en philosophe, à peine en écrivain, mais d'abord en lectrice. Et le mieux est donc d'écouter Virginia Woolf directement en parler dans la seule archive d'elle de la BBC qui date du 29 avril 1937.
Words, English words, are full of echoes, memories, associations, naturally. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields. So many centuries.
Les mots anglais sont habités d'échos, de souvenirs, d'associations, naturellement. Telle est la thèse de Virginia Woolf dans le premier essai de ce recueil sur les mots, et c'est sa première leçon sur la lecture. Lire, c'est d'abord élucider l'essence, le fonctionnement, les propriétés des mots. Mais il s'agit d'y procéder sans manipuler les mots comme des objets, sans les juger, sans les dominer, mais en voyant ce qu'ils nous font eux, comment ils nous manipulent eux. Et c'est bien là la deuxième leçon de Virginia Woolf, comment ne pas juger les mots, mais se laisser porter par eux. À ces deux leçons, Virginia Woolf en ajoute une troisième, faire part de ses expériences au plus proche des textes pour les comparer, comme ce qu'elle fait quand elle lit une œuvre de Charles Dickens.
C'est ainsi que je m'appelais moi-même, Pip, et que tout le monde m'appela, Pip. La première impression que j'éprouvais de l'existence des choses extérieures semble m'être venue par une mémorable après-midi, froide, tirant vers le soir. À ce moment, je devinais que ce lieu glacé, envahi par les orties, était le cimetière, que ce grand désert plat au-delà du cimetière, entrecoupé de murailles et de fossés, se composait de marais, que cette petite ligne de plomb plus loin était la rivière, et que cette vaste étendue plus éloignée encore, et d'où venait le vent, était la mer.
Quand Virginia Woolf lit Charles Dickens, elle fait cette expérience. Elle relit un auteur connu de son enfance et de poser cette question, lit-on toujours de la même manière ? Entre la plongée immédiate dans les mots enfants et l'expérience esthétique et réfléchie de l'adulte, lequel de ses rapports au texte est le meilleur ? Et ce qui se dessine au fur et à mesure des essais de Virginia Woolf, c'est la méthode qu'elle explore pour lire un livre. Comment doit-on lire un livre ? C'est d'ailleurs le titre d'un des essais publiés ici. Ce qui se dessine, c'est ce projet qu'aucun philosophe n'avait entrepris avant elle, car ceux-là sont souvent du côté de l'écriture, de l'auteur, de l'utilité. Virginia Woolf, elle, en appelle à autre chose, et c'est une chose inédite, refuser de reprendre la main, refuser de reprendre la plume, le pouvoir, et laisser les mots nous mener comme un enfant face à Dickens ou face à Jane Austen.
Chère mademoiselle, je suis très contrariée d'apprendre qu'il y a eu dans ma conduite hier soir quelque chose qui n'a pas reçu votre approbation. Si j'ai eu le malheur de laisser croire que j'éprouvais un sentiment plus fort que celui qui était le mien, je vous en demande humblement pardon. Mon cœur est depuis longtemps engagé ailleurs. À votre demande, je vous rends donc vos lettres, ainsi que la mèche de cheveux que vous m'aviez offerte naguère si obligeamment. Je suis mademoiselle...
Je n'y comprends rien, Elinor. Nous étions les deux moitiés d'une même âme.
Quelle horrible bassesse!
Quand on lit Jane Austen, comment donc se laisser porter? Virginia Woolf était contre les critiques, les chroniqueurs, tous ceux qui indiquaient des règles à suivre. Mais comment parvenir à lire alors, à être actif tout en se laissant aller au livre? C'est une méthodologie inattendue, un paradoxe, savoir lire tout en s'abandonnant, en oubliant tout savoir ou en sachant que l'on ne sait pas. En cela, Virginia Woolf se fait peut-être philosophe, plus qu'aucun autre philosophe d'ailleurs sur la littérature, mais elle reste quand même, il faut le dire, toujours du côté des lecteurs, de ceux qui, sans eux, les philosophes et écrivains ne seraient plus rien.
C'est noté, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Cette semaine, nous vous offrons quelques minutes de poésie avec Arthur Rimbaud, des textes lus par le poète Jacques Gamblin. Aujourd'hui, le prologue d'une saison en enfer.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bond sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène. Etc. surécrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris. Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée. Et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés.
Thank you.
C'était le prologue d'une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, lu par Jacques Gamblin. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission, ainsi que toutes les autres, Marianne Chassor, David Pargamin, Maude Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard et Nicolas Berger à la réalisation. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Confucius. D'ici là, pour réécouter l'émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, ainsi que toutes celles des jours précédents et des semaines et des mois, voire des années précédentes. Vous pouvez aussi télécharger, podcaster ces émissions afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.